Santé.
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 C'est bon pour la santé.
Faire du sport.
C'est bon pour la santé.
Les carottes.
C'est bon pour la santé.
Boire, rire, bien dormir.
Bouger, faire de l'exercice.
C'est bon pour la santé.
Puis on vieillit bien à part de ça.
Manger des fruits.
Mangiamo les spaghetti.
Une ou deux gorgées d'eau toutes les heures.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon début d'après-midi, Marianne Paquette au micro. J'espère que vous allez bien. Dans les 30 prochaines minutes, vous entendrez « C'est bon pour la santé », ce tout nouveau magazine axé sur la santé. Le titre le dit bien, et également sur les saines habitudes de vie. On est là pour vous en proposer ou pour vous motiver à les conserver si vous en avez déjà. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la prévention du suicide, hein, 10 septembre. Et on avait envie d'en parler pour tenter de le prévenir, bien sûr, hein, c'est toujours ça, la prévention, ce qu'on met de l'avant. Aujourd'hui, un phénomène qui est peut-être un petit peu plus rare, en tout cas du moins moins étudié, mais bien sûr tout aussi préoccupant et dont il faut parler, le suicide chez les enfants et notamment comment on peut le détecter, comment on prévient, on détecte les conduites suicidaires chez les enfants âgés entre 6 et 12 ans. Tout ça avec Nathalie Maltel, qui est conseillère clinicienne spécialisée à l'hôpital Rivière-des-Prairies, également infirmière, oui, en pédopsychiatrie. Et en deuxième partie d'émission, je discute avec le docteur Pierre Frémont, lui qui est président de la collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, également professeur agrégé à la faculté de médecine de l'Université de Laval. Il va nous livrer, docteur Frémont, des recommandations afin d'éviter les commotions cérébrales. On le sait, c'est l'automne là, qui est vraiment à nos portes. Les enfants sont de retour, soit sur la glace pour jouer au hockey, le football qui continue. Et il y a des dizaines de jeunes Québécois qui subissent des commotions cérébrales pendant ces activités sportives-là et qui vont souffrir toute leur vie de ces conséquences-là. On en parlera avec lui en deuxième partie d'émission. Bonjour Nathalie Maltais.
Bonjour.
Simplement lire une petite phrase d'introduction pour mettre tout le monde dans le bain de ce sujet-là qui vous préoccupe, vous baignez là-dedans depuis quelques temps. Je lisais qu'au Québec, entre 1995 et 2001, il y a 29 enfants qui se sont suicidés. En Europe, on parle d'entre 30 et 40 enfants, oui, de 5 à 15 ans. Et ça continue d'augmenter. Aux États-Unis, 12 % des enfants âgés de 6 à 12 ans présentent des idées suicidaires, alors que 8 à 10 % de tous les enfants américains ont déjà fait une tentative dans leur enfance. C'est énorme. En même temps, ce que j'ai pu lire d'un autre côté, c'est que c'est plutôt rare et peu fréquent. Donc, en premier lieu, j'aimerais qu'on se dépatouille un petit peu dans ces données-là, ces chiffres-là qui m'apparaissent, à mes yeux, beaucoup trop énormes.
C'est certain que c'est très important d'entrée de jeu de mentionner que c'est pas nécessairement le suicide qu'on devrait parler avec les enfants de 12 ans et moins, mais plutôt d'une crise suicidaire. Je vais vous expliquer un peu au cours de mon entretien la différence. C'est qu'on rencontre plus particulièrement des enfants qui présentent des idéations ou des comportements suicidaires, plus que, heureusement, qui ont complété le suicide. C'est ça. Ces chiffres-là nous indiquent que malgré toute la prévention qui est faite, malgré toutes les interventions qu'on fait pour ça, il y a encore des enfants qui, malheureusement, se suicide. C'est certain, si on regarde le sociologue Boris Cyrulnik, qu'il a publié un livre en 2011, on peut constater que c'est très... c'est un problème de société important. Puis, on pourrait dire que la société n'est pas prête non plus à reconnaître qu'un enfant peut aller jusque-là. C'est très questionnant pour nous autres.
Non, et d'ailleurs, on pense souvent qu'un enfant en bas âge, là, 8-9 ans, quand il parle de se tuer, de la mort, c'est parce qu'il souhaite avoir de l'attention. Et vous avez eu envie de démystifier ça, à savoir est-ce que c'est réellement vrai ou faut aller plus loin? Est-ce que vous avez déjà des données de réponse?
J'ai pas encore de données de réponse, mais moi, certainement, je me penche sur le fait que qu'est-ce que les infirmières, puis les plus spécialisées en santé mentale, vous allez comprendre pourquoi, parce que ça augmente le risque de 35% quand on a un problème de santé mentale. Donc, moi, je veux vraiment aller voir qu'est-ce que les infirmières en pensent pour être capable après de proposer des interventions puis des pistes pour faire l'évaluation du risque suicidaire plus approprié.
Donc, on ne sait pas encore si un enfant qui fait cette menace-là va réellement tenter de s'enlever la vie.
Bien, c'est certain que quand il dit quelque chose comme ça, il faut comprendre ça comme un appel à l'aide. Ouais. C'est certain qu'il faut entendre l'appel à l'aide et il faut s'asseoir avec l'enfant et jaser avec lui puis voir qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qu'il comprend. Parce que de plus en plus, moi, je prétends, puis c'est ce que je vais aller voir par mes recherches, que avec l'Internet, avec la télévision, les médias ouverts sur le monde, les enfants de plus en plus jeunes ont accès au mot suicide, ont accès à des... ils voient des moyens, des méthodes, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il est temps qu'on fasse des recherches à ce sujet.
Dans les dessins animés même, on peut voir des méthodes carrément.
Exactement, exactement, exactement. C'est très préoccupant. Puis une raison aussi qui pourrait expliquer le fait que les statistiques sont très différentes d'une étude à l'autre, ça serait que la compilation des données, la compilation des données est difficile à faire parce que souvent on intègre les 12 ans et moins avec les 15-25 ans. On va dire qu'il y en a
une autre réalité.
Exactement, exactement. Ouais. Moi, je trouve que c'est important de faire des recherches séparées sur cette réalité-là des 13 ans et moins.
Vous parliez, Nathalie Maltais, que souvent la maladie mentale est associée à la tentative du suicide, au désir de la mort. Quand on parle de troubles de santé mentale, c'est de la dépression?
La dépression, des troubles de l'humeur, des troubles impulsifs comme les troubles de le TDAH, des choses comme ça. C'est souvent ça qu'on rencontre.
Est-ce que le profil type de l'enfant suicidaire souffre d'un trouble de maladie mentale
Certain que moi, ma recherche porte sur ces enfants-là. Quand, c'est autrement dit, quand ils consultent chez nous, moi, c'est ça que je veux savoir. Comment que mes infirmières, quand ils présentent des idéations suicidaires ou des comportements suicidaires, font pour faire l'évaluation et comment elles vont intervenir. Donc, pour moi, pour l'instant, je me concentre sur les enfants qui ont des problèmes de santé mentale. L'autre chose que je voulais vous dire à ce sujet-là, c'est qu'aussi, il y a d'autres facteurs qui sont plus à risque. Des enfants qui ont été victimes d'abus, des enfants qui ont été maltraités, qui ont eu de, qui ont été victimes de violences. On en parle psychologique et tout ça. C'est certain que ces enfants-là sont plus à risque. Je voudrais pas que tous les parents commencent à s'inquiéter pour le jeune.
Est-ce que l'enfant qui a vécu lui-même le suicide de l'un des membres de sa famille sera plus à risque?
Très certainement. On parle d'apprentissage, de stratégie d'adaptation, si je peux me permettre. C'est pas nécessairement une belle stratégie d'adaptation, une bonne stratégie d'adaptation, mais ils l'ont appris de le modèle parental et tout ça. Donc, c'est quelque chose qu'il faut considérer à ce moment-là, oui.
Bien sûr, on ne veut pas inquiéter les parents à la maison, mais si jamais l'un d'eux se retrouvait dans une situation où l'enfant parle de mort et de suicide, qu'est-ce qu'on peut faire ou on doit faire dans ce cas-là?
Bien, c'est certain qu'on doit s'arrêter en tant que parent, puis on doit se concentrer sur essayer de comprendre il est rendu où notre enfant face à ça. C'est quoi son problème? C'est quoi sa souffrance? Quelle est l'ampleur de sa détresse? Puis essayer de comprendre ses moyens face à ça, puis lui proposer des moyens pour l'aider, puis lui dire qu'on est disponible à ce moment-là. Puis c'est sûr que si les parents sont pas confortables avec ça, c'est certain qu'on les invite à consulter un professionnel, c'est sûr.
Et une fois en clinique, parlons-en des professionnels, vous en êtes une, Nathalie Maltais, quels sont les outils de détection?
Bien, c'est certain que nous, en clinique, on a certains questionnaires qui nous aident à voir les facteurs de risque et les facteurs de protection. Parce qu'il y a aussi des facteurs de protection, on pourrait en parler un petit peu. Hein. C'est intéressant de savoir que vivre en famille, prendre un souper en famille, tout ça, puis être à l'écoute de notre jeune, faire des activités avec eux, les impliquer dans le sport, avoir une spiritualité, ce sont des facteurs de protection qu'on remarque chez les adolescents. Donc, on peut penser que c'est aussi les mêmes facteurs de protection évaluation pour les enfants. Si je reviens à votre question par rapport à l'évaluation, ben, on va avoir... c'est certain que l'infirmière travaille beaucoup en collaboration avec la famille. C'est très important. Elle va vraiment essayer de voir tout ce que le jeune vit dernièrement, comment ça se passe à l'école, dans toutes les sphères de sa vie, puis tout ça. Puis c'est certain qu'on le garde un peu à l'hôpital, puis on fait avec... il y a aussi le psychologue qui est impliqué là-dedans. Il y a d'autres professionnels, le médecin, l'ergothérapeute si on a besoin, la physiothérapie. On n'a pas de physiothérapie pour ça, là, mais toute l'équipe interdisciplinaire est met à contribution dans ces cas-là pour faire une bonne évaluation de ce jeune-là.
Ce que je crois avoir saisi dans mes lectures, c'est que souvent, l'enfant va menacer de se tuer, mentionne qu'il souhaite disparaître, mais rarement il s'y rendra jusqu'au bout. Est-ce que ces chiffres-là sont réels?
C'est certain que ce que M. Cyrulnik mentionne, c'est qu'il y aurait beaucoup d'accidents qu'on n'a pas comptabilisés, mais qu'en fait, le jeune, en faisant une autopsie après le décès, voulait mourir, avait un désir de mourir. Donc, moi, je pense qu'il faut vraiment faire des recherches à ce sujet-là. Puis il faut vraiment se questionner en tant que société. Encore une fois, M. Cyrulnik disait que ça prend un village pour élever un enfant. Puis je pense que c'est ça qui est important, l'entourer de grands-parents, l'entourer d'adultes qui sont avec eux pour les accompagner dans le moment difficile, puis leur montrer des stratégies pour faire face aux événements de la vie.
Et qui sont également, à ce moment-là, des facteurs de protection.
Exactement.
Quel est l'impact... De l'école, par exemple, du milieu familial, du milieu scolaire. Est-ce qu'il y a des mesures qui sont prises par les établissements scolaires pour aborder ce sujet-là qui est extrêmement délicat?
Je pense qu'il n'y en a pas assez encore. C'est ça, je vous dis, c'est souvent on s'inquiète, mais je veux dire, on pense encore que les enfants peut-être sont pas assez vieux pour aller jusqu'à commettre l'acte de suicide. Par contre, moi, je pense vraiment que les écoles devraient commencer à s'ouvrir à ça. Et certains chercheurs au Québec, Daigle et Gallagher, ont fait un programme de prévention du suicide dans le milieu scolaire. Je me souviens plus dans quelle région du Québec, mais on avait commencé en 2008 à s'intéresser à ça. Puis je pense qu'il faut en faire de plus en plus. Parce que, à mon avis, avec l'ouverture sur le monde par Internet et par tous les autres médias, les enfants ont plus contact avec ça. Puis en plus de ça, bien, la vie... nous amène de plus en plus de détresse. Hein?
Ouais.
On vit un rythme accéléré et tout ça. Donc, les enfants s'en ressentent.
Et je parlais du milieu familial. Est-ce que le parent... Parce que le parent parle de sexualité avec son enfant. Il va parler parfois de prise de stupéfiants, la prévention de ça. Il va parler de mort également, de deuil. Mais de suicide, c'est beaucoup plus rare, moins... aborder, est-ce que vous encouragez les parents à avoir cette discussion-là?
Je serais prudente à ce sujet-là. Okay. C'est-à-dire que de laisser l'enfant vous amener ses questions, surtout si l'enfant n'est pas en détresse, là, je parle, si l'enfant est dans un milieu familial puis qu'il est capable de s'adapter relativement bien à toutes les sphères de sa vie. Mais s'il y a des questions ou il y a un sujet qui vient aussi sur Internet, on pense à M. Williams dernièrement, bien, je pense que ça pourrait être l'occasion d'aller voir où est-ce que notre enfant est rendu à ce moment-là, puis d'essayer de le soutenir là-dedans, puis de lui donner les bons outils au cas qu'il aurait besoin.
Mais s'il n'en parle pas, on ne l'aborde pas.
Bien, ce n'est pas fermé, mais il faut toujours être conscient d'où est-ce que notre enfant est rendu pour ne pas nécessairement induire de l'inquiétude pour rien ou des choses comme ça pour rien. Je veux dire, il faut vraiment être capable de voir est-ce qu'il y a une compréhension de la mort, est-ce qu'il comprend que la mort, c'est final, c'est pas, c'est pas un jeu de Nintendo, puis on refait play, puis on repart la game, tu sais.
Oui.
Fait que c'est ces choses-là que je pense qu'il faut considérer avant de parler, dans la façon qu'on va parler du suicide. Puis je conseille aussi aux parents qui ne se sentent pas du tout habilités à faire ça, puis qui voudraient le faire, de demander de l'aide.
Et justement, c'est intéressant parce que vous parlez de la compréhension de la mort. Elle n'est pas du tout la même pour un enfant de 4 ans, de 6 ans, ou bon, après, les ados, les adultes. Est-ce que l'enfant en bas âge, là, on parle aujourd'hui des 12 ans et moins, saisit que la mort, C'est réellement définitif.
Selon le chercheur Michara, à partir de 8 ans, les enfants étaient capables, dans une étude qu'il a faite, je ne me souviens pas quelle année, là, mais ils étaient capables de vraiment avoir une conception de la mort qui était juste puis appropriée. Donc, à partir de 8 ans, je pense qu'ils savent qu'est-ce que ça veut dire, la mort.
Mm-hmm. Oui, et comme on le mentionnait tantôt, la plupart du temps, savent comment s'y prendre pour y arriver, notamment à cause de l'impact d'Internet et aussi de la télévision. Là.
Malheureusement, sur Internet, on ne trouve pas seulement des ressources pour nous aider. On en trouve de plus en plus, mais on trouve aussi des ressources pour commettre le geste. Donc, il faut surveiller nos enfants aussi avec Internet à ce sujet-là aussi.
Si je veux continuer dans la prévention, j'aimerais revenir sur la santé mentale. Tantôt, on parlait que souvent, bon, la conduite suicidaire est amenée par un trouble de santé mentale, dépression, TDAH. Ça, on le traite avant, c'est ce qu'on met en priorité, j'imagine.
C'est certain que c'est quand ils arrivent à l'hôpital puis qu'ils viennent pour idéation suicidaire ou des choses comme ça, bien nous, c'est sûr qu'on fait une évaluation de la condition mentale. Donc, ça l'implique tout ça. On va aller voir s'il y a il y a d'autres troubles sous-jacents. C'est certain qu'aussi avec les enfants, il y a les troubles mentaux, mais il y a aussi l'impulsivité.
Ouais.
Puis c'est là que ça peut prendre l'aide d'un professionnel pour être capable bien de départir qu'est-ce qu'il y avait en dessous de cette crise suicidaire. J'aime beaucoup l'appeler plus crise suicidaire que suicide ou suicidalité parce que ça comprend le geste.
Et également l'évaluation de la situation.
Exactement.
Parce que peut-être que la famille, tout a toujours bien été, l'enfant a toujours un comportement sain. Par contre, il se passe quelque chose dans la famille, grand-papa décède, un divorce, un déménagement, et là, soudain, l'équilibre se fragilise, et là, bon, le comportement change. Et j'imagine qu'il faut avoir encore là les yeux grands ouverts. Là.
Exactement. Il faut être à l'écoute de nos enfants. C'est pour ça que ça prend un village pour les élever.
Ouais.
Ça prend du monde pour les entourer, des adultes de confiance qui sont capables de lui montrer que ça va bien aller, puis qu'on est là pour t'entourer, puis t'aider. Fait qu'effectivement, quand il arrive quelque chose dans la famille, les parents doivent se préoccuper de leurs enfants.
Nathalie Maltais, pour terminer, je veux attirer l'attention sur une vidéo qui est publiée par l'hôpital Rivière-des-Prairies où vous en êtes la vedette de ce vidéo-là. C'est dans le cadre de la Journée mondiale de la prévention du suicide et vous êtes là justement pour parler de ces recherches, cette recherche novatrice qui porte sur la prévention du suicide chez les enfants. On glissera bien sûr les coordonnées là, de l'hôpital Rivière-des-Prairies pour qu'on puisse visionner cette vidéo-là. En terminant, je veux vous remercier et vous souhaiter bonne chance dans ces recherches-là là, que vous entamez sur la prévention du suicide chez les enfants.
Je peux-tu rajouter juste un petit mot?
Certainement.
C'est certain que les parents peuvent compter sur les infirmières pour les aider aussi là-dedans, que ce soit l'infirmière en milieu scolaire ou l'infirmière du CLSC ou ces choses-là. Les infirmières sont là pour vous aider.
C'est les ressources là, vers lesquelles se tourner en premier lieu.
Oui.
Nathalie Maltais, je rappelle que vous êtes infirmière à l'hôpital Rivière-des-Prairies, en fait conseillère clinicienne spécialisée. Je vous remercie beaucoup d'avoir été là.
Ça me fait plaisir. Bonne journée.
Pour rejoindre Marianne Paquette et l'équipe de C'est bon pour la santé, sans frais partout au Québec, 1-800-361-0635, poste 220. Par courriel, écrivez à mpaquette@vusezvoix.com. Pour plus d'informations sur l'émission, consultez canalm.org. Suivez-nous sur Facebook, / C'est bon pour la santé, et sur Twitter, @canal_m.
Docteur Pierre Frémont, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à Québec?
Oui.
Je rappelle que vous êtes président de la collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, également professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Vous êtes là pour nous parler de recommandations afin d'éviter les commotions cérébrales. Et je lisais qu'au Canada, il y aurait entre 200 000 et 300 000 commotions cérébrales chaque année et qu'à partir de l'âge de 8 ans, un athlète sur deux pourrait subir une commotion au cours de chaque saison dans des sports comme le hockey, le football, le soccer. Ce ne sont pas que les athlètes professionnels, quand on parle de Sidney Crosby, Daniel Brière, bien sûr, qui en subissent et qui ont beaucoup de... Les médias en parlent énormément, c'est une bonne chose, mais ce ne sont pas qu'eux qui peuvent subir de commotions cérébrales.
Absolument pas. Ils ont amené l'attention médiatique sur le sujet, ce qui est une bonne chose. Ça nous aide à progresser dans l'éducation, mais on a des signes que le cerveau de l'enfant en développement est particulièrement fragile, vulnérable, peut prendre plus de temps à guérir suite à une commotion cérébrale.
Quelles seront les conséquences d'une commotion cérébrale sur un enfant en plein développement?
Bien, la bonne nouvelle, c'est qu'une je pense que c'est important de dire les choses qui sont positives aussi, c'est que une commotion cérébrale bien identifiée dès le premier coup qui éveille les premiers symptômes, c'est un problème qui évolue typiquement très bien de façon spontanée tant qu'on maintient le jeune en dehors des activités à risque. Mm-hmm. Ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, ce qui arrive trop souvent, malheureusement, c'est que ces premiers symptômes-là ne sont pas associés au concept de commotion cérébrale par ignorance. Mm-hmm. Les jeunes continuent l'activité dans la culture du guerrier qui doit retourner au jeu à tout prix. Et là, il y a un deuxième coup. Et là, on identifie qu'il y a quelque chose qui va mal quand les commotions deviennent plus graves. Et c'est là qu'on a des commotions qui durent longtemps, qui perturbent le fonctionnement scolaire, qui peuvent donner une fragilité chronique à faire de nouvelles commotions, qui peuvent donner des symptômes chroniques. Et c'est là qu'on a une perturbation de la progression scolaire des enfants. Et éventuellement, on a des jeunes qui malheureusement doivent arrêter les sports parce qu'ils font des commotions à propos de rien. Donc, c'est ça qu'on veut éviter.
Donc, ça, ce sont des répercussions qui sont associées à des commotions non traitées.
Oui.
Qui ne seraient pas identifiées, par exemple.
Mal identifiées. Mm-hmm. Et donc, en conséquence, non traitées.
Oui. Justement, comment on les identifie? Comment on peut identifier les symptômes?
Moi, je vous résumerais ça probablement en trois mots. Éducation, éducation et éducation. C'est-à-dire que les symptômes, ils sont simples. C'est des choses qu'on peut questionner dans la mesure où on les connaît et on les recherche. C'est des maux de tête, des étourdissements, des problèmes de concentration, confusion, désorientation, des choses assez générales, de la fatigue, des problèmes de sommeil. Donc, il faut apprendre à questionner les jeunes qui ont un coup un peu plus important ou qui ont l'air le moins
ébranlé. Une chute également? Parce que vous parlez de coup, ça peut être une chute également?
Oui, tout à fait. Donc, les sports, il y a les sports de contact où le contact fait partie du jeu, les sports de collision où les gens vont vite comme au hockey et se frappent volontairement ou non, mais les sports de chute qui caractérisent beaucoup les sports faits par les jeunes filles, le cheerleading, la gymnastique, il faut vraiment... c'est ça, penser à toutes les circonstances qui peuvent donner des commotions.
Docteur Frémont, on a combien de temps pour réagir? On est un parent ou un coach, on identifie ou on soupçonne une commotion cérébrale. Pour éviter justement les répercussions dont on parlait tout à l'heure.
D'abord, dès qu'on a une indication, on a vu un jeune qui est instable sur ses pieds en se relevant, il nous a parlé d'un mal de tête qui est rapidement disparu. Dès qu'on a eu, ne serait-ce qu'un petit moment, quelque chose d'identifiable, de reliable au concept de commotion, on doit retirer les jeunes de l'activité en cours. Il n'y a pas de retour qui devrait être autorisé dès qu'on a le moindre incident. Et ça, c'est la chose la plus sécuritaire. Et c'est là qu'on va voir soit la commotion se résorber rapidement, soit qu'on va voir les symptômes s'épanouir dans toute leur ampleur dans les minutes ou les heures qui vont suivre. Parce que souvent, il y a des symptômes qui progressent dans le temps sans devenir très, très sévères, mais ils deviennent évidents. Mais seulement 5 minutes, 10 minutes, une heure plus tard. Et c'est pour ça qu'il faut les retirer dès qu'on a un doute. Mm-hmm. En anglais, ils disent « when in doubt, sit them out ». Donc, dès qu'il y a un doute, on les retire de l'environnement à risque et on les observe Puis comme ça, ben, on évite d'évoluer vers des tableaux plus sévères.
Et combien de temps ça prend de temps? J'imagine que c'est unique pour chaque cas.
Chaque cas est unique, mais il y a des généralités qu'on connaît. On sait qu'à peu près 90 % des commotions vont rentrer dans l'ordre de façon spontanée à l'intérieur de 7 à 10 jours.
OK.
Et quand on compare ça à un rhume ou une gastro-entérite, c'est pas une catastrophe dans la vie d'un jeune, là. Et ça peut être géré en bonne partie par une connaissance du problème, par papa, maman, l'entraîneur, par un message à l'école que le jeune va manquer une journée d'école parce qu'il a encore un peu mal à la tête. Donc, il faut pas médicaliser à outrance. Il faut, au contraire, travailler à éduquer les familles, les parents, les entraîneurs, les enseignants.
Et ça, à part par des communiqués de presse ou des émissions de radio, ça se fait comment, Dr. Frémont?
Ah, j'aime bien cette question-là parce que notre principale recommandation qu'on a essayé de diffuser récemment, c'est de mettre en place des protocoles dans les environnements à risque. Et le mot protocole, ça signifie tout le spectre de la planification de ce qui se passe, c'est-à-dire comment prévenir les commotions à travers l'équipement, les règlements, les terrains, comment détecter les commotions, c'est quoi la stratégie d'éducation qu'on va utiliser pour éduquer tout le monde sur les principaux symptômes à rechercher, etc. Donc, la notion de protocole, ça commence pas quand on a identifié la commotion et qu'on commence à la traiter. Ça englobe beaucoup plus large. Et il faut que chaque milieu qui organise des activités à risque, comme des programmes de football, de hockey,
bien sûr,
prenne le temps de s'asseoir et dise, nous, avec nos ressources, dans ce qui caractérise notre environnement, comment est-ce qu'on peut appliquer ça?
Docteur Frémont, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes président de la collaboration canadienne pour les commotions cérébrales, également professeur agrégé à la Faculté de médecine de l'Université Laval. Vous étiez là pour nous faire vos recommandations afin d'éviter les commotions cérébrales et pour préserver la santé de ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui vont débuter là, avec cette saison, cette rentrée scolaire, leurs activités parascolaires, et également pour parler aux parents et tous les intervenants là, dans le milieu du sport. Et on espère que ces protocoles seront suivis.
Merci beaucoup.
Au plaisir.
Au revoir.
Déjà la fin de C'est bon pour la santé. Merci beaucoup d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez maintenant nous écouter au canalm.org. Et puis, vous rappelez également que aujourd'hui, 10 septembre, c'est la Journée mondiale de la prévention du suicide. Et il y a différents numéros de téléphone. Je vous en donne un, entre autres choses. C'est celui de l'Association québécoise de prévention du suicide. Et ça, c'est partout au Québec, le 1-866-277-3553. On glissera bien sûr ce lien-là sur notre site, également sur notre page Facebook. Si vous avez besoin d'aide ou si l'un de vos proches vous inquiète par son comportement ou par ses dires, vous appelez à ce numéro-là. Il y aura des gens pour vous conseiller, vous encadrer et vous diriger vers les ressources dans votre région. Également, vous dire que ma première invitée, Nathalie Maltais, elle qui est infirmière en pédopsychiatrie à l'hôpital Rivière-des-Prairies, est la vedette d'une vidéo que vous pourrez voir sur le site de l'hôpital Rivière-des-Prairies. Nous, on se retrouve demain. Merci beaucoup d'avoir été là et portez-vous bien. Bye-bye.